Écoute, on est à moins d'un mois de Noël. Je pense qu'il est temps qu'on enfile nos pantoufles.
Alors personnellement, c'est fait depuis juillet, mais vas-y, vas-y, continue.
Moi aussi. Qu'on mette des chants de Noël en boucle jusqu'à que ça nous rende fous.
Est-ce que Mariah Carey compte dans cette sélection de Noël?
Mariah Carey est obligatoire dans une
Ouais.
sélection de Noël, sinon ça n'est pas une sélection de Noël.
Tu me rassures.
Qu'on allume des bougies qui sentent le sapin synthétique.
J'ai rien à ajouter sur le sujet, mais oui, je suis d'accord.
Et qu'on arrête de se rendre au sérieux dans ce podcast, qui n'est plus du tout un podcast technologique. Et qu'on se laisse glisser jusqu'à Noël avec des épisodes bêtes et méchants de bilan
Surtout
de cette
bête.
année,
Surtout
surtout
bête.
bêtes, parce qu'on est des gens gentils à la fin. Et qu'avec les gens dont on prétend qu'ils n'existent pas mais qui nous écoutent, on se laisse glisser jusqu'à la fin de l'année, jusqu'aux fêtes, comme on dit de nos jours.
Oui, car ce sont les fêtes. Il faut être inclusif.
Avec des top 5, et je propose qu'on commence par notre sélection de nos 5 films ou séries télé favorites qu'on a regardées cette année.
T'es en train de dire que tu voudrais qu'on fasse le bilan des 5 films ou séries qui nous ont marqués cette année, c'est ça? Eh bien,
Un
c'est
truc
parti.
compliqué, tu sais, un truc hautement
Ouais.
philosophique.
Ah, j'aime beaucoup. Écoute, j'ai le cerveau en ébullition rien que d'y penser. Donc, c'est
Tu sais,
parfait.
il y a un de nos auditeurs et néanmoins ami numérique qui, hier, en parlant de ce podcast, a dit que j'étais fort docte. J'ai
Oh!
décidé de prendre ça comme une insulte, donc faisons un épisode un peu pas docte, si tu veux bien.
D'accord. D'accord. J'essaie de trouver un jeu de mots avec ça.
T'y arriveras pas parce que t'es pas docte.
Oh! Bon, soit, je jette l'éponge. Eh bien, pour la peine, c'est toi qui commences. Vas-y, donne un premier item dans cette liste de 5 points.
Écoute, ça va être super surprenant pour tout le monde. J'ai bien envie de commencer par Ted Lasso, qui d'ailleurs avait un épisode de Noël un peu déprimant.
Objectivement, c'était déprimant, oui.
Écoute, donc Ted Lasso, cette série qui est née d'une publicité, si ma mémoire est bonne, qui était diffusée
Oui.
sur NBC Sport, qui est devenue une série télé. Donc où il y a eu l'an dernier en octobre. A été renouvelé pour une troisième saison, et donc la deuxième saison a été diffusée cette année, depuis le mois de juillet, qui devait au départ faire 10 épisodes et qui finalement en a fait 12, ce qui explique qu'il y ait deux épisodes un peu hors fil rouge. Et je crois que j'ai enfin compris cette année ce que c'était que Ted Lasso et pourquoi les gens trouvaient ça bien alors que ça casse franchement pas trois pattes à un canard, ni scénaristiquement, ni visuellement. Mais c'est un doudou. C'est un gros doudou en forme de série télé pour des adultes un peu névrosés après 2 ans de pandémie. Ni plus ni moins. Ça a par ailleurs des choses, on a déjà évoqué le sujet, mais ça a par ailleurs des choses à dire socialement, quoi. C'est bien de parler de masculinité pas toxique et de parler de femmes qui peuvent être des patronnes. C'est bien, hein, vraiment, ça fait du bien. Mais justement, ça fait du bien. Ça fait du bien d'une manière. Enfin, ça fait pas mal au cerveau, quoi. Ça te le présente sans faire de la grande théorie. Ça te le présente comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Et il y a un peu de ça, quoi. C'est un doudou.
C'est bien résumé. Je vais ajouter un petit truc. C'est vrai que je te rejoins à 100% sur. C'est dommage, je suis d'accord avec toi pour une fois, c'est mon niveau coup.
Sur un sujet social, en plus, ouh!
Oh, merde, merde. Arnaud, qu'est-ce qui se passe? Tu vas voter PS la prochaine fois, c'est ça? Bon. C'est vrai que c'est une série dont je comprenais pas l'intérêt. La première saison était quand même relativement édulcorée, quoi. C'était quelque chose de plutôt très soft. Et je voyais bien le côté feel good, mais je comprenais pas très bien l'engouement. Et je crois que la saison 2 s'est vraiment révélée là-dessus. Elle a apporté de la profondeur au personnage. Elle a aussi soulevé des vulnérabilités, des choses comme ça, de manière plutôt intelligente.
Et un peu de conflit
Un peu de conflit, ouais, tout c'est juste ce
qui
qu'il
permet de
faut.
tendre, c'est pas mal.
Exact, un peu de tension, exactement. Ouais. Je pense que ça n'échappe pas tout à fait à l'écueil des gros sabots parfois, parce que ça reste une série américaine, j'imagine. Et du coup, certains sujets sont amenés avec un peu moins de subtilité que ce qui pourrait être. Parce qu'on voit que des fois c'est subtil, et des fois ça l'est vraiment pas du tout. Mais en même temps, bah, Oh là, je dis en même temps, ça y est, c'est foutu. C'est... En même temps, ça...
Ah, on
ça...
est plus au PS, là.
Non, ça y est, on a changé de camp radicalement. Uh-huh. C'est terrible, la dérive. Tu vois, en quelques secondes, c'est vraiment top comme ça. T'imagines en 2022. C'est... Ouais, c'est vraiment plaisant. Et en fait, ça me donne l'impression d'être un peu dans un univers où tout ce qu'on souhaite fonctionne. Existe et fonctionne.
Ouais.
Un peu comme à Disneyland où tu vois tout est propre. Eh bien, tu souhaiterais que les rues soient toujours propres, c'est pareil. Je ne sais pas si tu es déjà allé à Disneyland.
Si.
Ouais.
Moins que toi, mais oui.
Nous en parlerons dans un prochain épisode.
Oui, oui.
Mais voilà, c'est ça. C'est que c'est tout fonctionne. Enfin, c'est un univers où les relations entre les humains sont relativement harmonieuses, globalement. Et on aimerait que ce soit comme ça tout le temps. Et c'est chouette.
Ouais, et où ça n'empêche pas. Je ne vais pas spoiler la saison, mais ça n'empêche pas. Qu'il y ait des vrais conflits, qu'il y ait des vraies fragilités, qu'il y ait des vraies questions. Mmh. Et d'ailleurs, dans les deux dynamiques, hein, à la fois dans la dynamique qu'est-ce qu'un homme qui n'est pas macho et qu'est-ce que ça entraîne comme conflit et qu'est-ce que ça entraîne comme fragilité ou comme difficulté. Et quand t'es une femme qui, au contraire, peut être en position de pouvoir, qu'est-ce que ça entraîne comme conflit, comme difficulté, tout ça. Là-dessus, je pense que ça marche bien. C'est pas non plus... Enfin, ce serait assez facile d'en faire un truc un peu idéaliste, un peu guimauve. Regardez... Le monde rêvé. Non, justement, c'est pas un monde rêvé, c'est un monde possible.
Oui.
Et pour ça, je pense que c'est, en tout cas pour moi, c'est une des séries télé qui cette année m'a le plus intéressé.
Hmm.
À toi.
Eh bien, je vais commencer par une vieille série télé qui s'appelle Parks and Recreations.
Ah, c'est tellement bien.
Alors, ça faisait très longtemps que je voulais la regarder, et puis Adrien s'est motivé un jour à dire « Tiens, regarde ça !» Et puis j'ai dit « Ah bah oui, carrément !» Parce que j'ai beaucoup de mal à regarder la télé tout seul. Et du coup, il fallait que j'ai ce soutien émotionnel pour le faire. Donc, je suis content qu'on ait pu le faire. On a bingé ça en, du coup, un an environ, quoi. Ah ouais, c'est vachement bien, quand même. Non, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Bon, évidemment, encore une fois, sur le nombre d'épisodes, on peut pas, mathématiquement, je pense, échapper à certaines lourdeurs, certaines choses comme ça.
Ouais, ouais.
Mais une fois qu'on a passé la première saison, vraiment, c'est que du bonheur et... tous les acteurs sont super, extrêmement attachants. C'est là, il y a une fin, il y a une vraie fin. C'est amené.
C'est vrai. Oui, oui.
C'est amené de manière progressive et intelligente. On sent qu'ils ont pensé à tout boucler, tous les arcs qui étaient en cours et tout ça. Il y a même des ouvertures possibles après derrière. J'exclus naturellement l'épisode de la pandémie qui est plus un épisode de soutien slash charité, tu vois, enfin avec des appels aux dons et tout ça. Mais ouais, c'est il y a une vraie connivence, on sent que tout le monde est dedans. Enfin, c'est super. Il y a Chris Pratt, donc voilà, j'étais content aussi. Et non, tout est bien, tout est bien. Aubrey Plaza, fantastique.
Très très bien, très très bien tout le long. Ce que j'aime bien avec ce genre de série qui a eu le temps de se développer.
Oui, exact.
C'est que tu vois les personnages grandir et tu vois des personnages extraordinairement mineurs devenir extraordinairement importants et c'est eux qui finalement deviennent la clé. Et ouais, et c'est un vrai, c'est une vraie série chorale, quoi, où vraiment absolument tous les personnages ont une place. Et il n'y a pas de faire-valoir, en fait.
Ouais, exact.
Ou disons que le faire-valoir d'un épisode devient le personnage central de l'épisode du lendemain, donc c'est, ouais, c'est vraiment chouette.
Et il y a beaucoup de tendresse, c'est-à-dire que beaucoup de choses sont abordées et des choses même parfois relativement profondes, hein, on parle de vie privée, on parle de masculinisme, encore une fois, on parle de beaucoup de choses comme ça. Et, il y a une petite morale parfois qui, bon, arrive un peu avec des gros sabots, mais c'est toujours tendre, tu vois. Et c'est jamais amené comme quelque chose de... On rit jamais de manière méchante, enfin, je sais pas comment dire. C'est facile de faire rire aux dépens de quelqu'un, et là, ça l'est pas, enfin, voilà.
Ouais, et je pense que c'est le problème. J'ai revu VIP cette année.
Ouais.
Et je crois que c'est peut-être le problème de VIP, où il y a un côté un peu plus acide et parfois un peu plus méchant.
Corrosif, ouais, je vois très bien.
Et qui, du coup... peut être très vite fatigant, tu vois. VIP, je regarde un épisode dans la semaine, c'est bien. Parks and Rec, quand je me refais Parks and Rec, je vais regarder 5 épisodes dans la soirée, quoi. C'est
le problème de VIP, et je pense aussi de... Zut, je viens d'oublier le nom. attends. Une autre série... flûte, bon, c'est pas très grave. Mais avec le même type d'humour, un peu méchant, et qui, finalement, c'est un peu du cynisme déguisé, quoi.
Oui.
Je pense que c'est des choses à manier avec beaucoup de précaution parce que on est vraiment. Oh là là, je vais faire du prêchi-prêcha de Noël, tu vas voir.
Non, mais quand c'est gratuit,
Ouais.
Tu vois, tu peux être, tu peux être cynique quand t'as quelque chose à dire. Et
C'est ça. Et encore, il faut faire attention quand même. Faut faire attention. Parce que ça peut très vite, contaminer tout le reste.
C'est ça. C'est une arme qu'il faut manier avec précaution. Mais quand c'est purement gratuit, non, c'est très vite fatigant, quoi. C'est bon, quoi. Il y a, enfin, on a de choses à faire, quoi. Il y a tellement de séries à regarder, enfin.
Bien d'accord.
Donc à moi, du coup.
Eh oui.
Écoute, on va rester dans les vieux pots. on va remonter à septembre 1999, si tu veux bien.
Ah.
non, j'en reparlais sur Metro Zen Dodo, mais je me suis abonné à Canal. J'ai l'impression d'être mes parents. et donc, dans mon abonnement Canal, outre le fait que j'ai Disney Plus et Netflix, il y a tout un tas de séries américaines que je n'avais pas revues depuis quelques années. Et donc, j'ai revu The West Wing et j'ai revu The Newsroom, qui sont deux séries de Aaron Sorkin. Et ça, tu vois, je parlais tout à l'heure de Doudou, bah, ça, c'est mon Doudou à moi. C'est des séries télé qui sont un prétexte. The West Wing, c'est 154 épisodes. The Newsroom, c'est 25 épisodes. C'est un prétexte pour te faire la leçon. C'est Sorkin qui écrit. C'est des séries qui sont très verbales, très, très verbeuses. et il écrit pour te donner une leçon sur c'est quoi un gouvernement, c'est quoi la Maison Blanche, c'est quoi le président des États-Unis, c'est quoi la bonne politique. Et c'est quoi la politique parfois aussi dans tout son cynisme, justement, hein. C'est quoi les compromis politiques et pourquoi l'idéalisme ça va jusqu'à un certain point et au bout d'un moment il faut passer à la politique. The Newsroom, c'est un peu la même histoire mais avec des journalistes. C'est jusqu'à quel point les idéaux journalistiques bah, ils te font pas les droits dans le mur et au bout d'un moment il faut pas. Et puis ça, pour ne rien gâcher, Sorkin il sait écrire, il écrit bien, et puis il sait s'entourer d'acteurs qui sont capables de mitrailler avec le débit qu'il faut pour dire tout ce qu'il a à dire, et qui incarne vachement bien, quoi. Et ouais, ça c'est mon doudou à moi, quoi. Quand je me sens mal dans mon métier, je me refais The Newsroom, par exemple, et je me ressens journaliste après 25 épisodes, quoi, vraiment. Et là, The West Wing, qu'on est en train de revoir avec Cécile, c'est un... enfin, qu'elle est en train de découvrir et que moi je suis en train de revoir pour la centième fois. c'est du doudou, c'est du bonbon, c'est ce que tu veux, mais oui, à cette période de l'année, c'est parfait.
Bah écoute, je prends note parce que j'ai jamais vu.
Haha.
J'avais bien aimé le Steve Jobs de Sorkin pour le coup.
Oui, qui était pas du tout sur Steve Jobs, c'était très bien.
Oui, c'est ça en fait. C'était bien sur un autre personnage, mais bon, ça restait quand même intéressant en tant que film.
Et un personnage de fiction vaguement.
Voilà, qui s'habille un peu pareil, quoi. Ouais, ouais.
Ouais.
Ouais. Ouais, ok, bah, merci pour la recommandation. Bon, je vais changer un peu de registre. Ça reste du film parce que c'est un film de concert, mais c'est le tournage de Madame X, ou en anglais Madame X, de Madonna, en anglais Madonna, qui était tournée à Lisbonne, donc qui est sortie, je crois, il y a un mois ou deux. Donc alors, Madame X, c'est une tournée qui suit le dernier album de Madonna qui s'appelle probablement Madame X, je pense. Je sais même plus comment s'appelle cet album, j'ai un peu honte d'un seul coup. Est-ce qu'on vérifie tout de suite ? On vérifie tout de suite. Poète.
Madame X.
Madame X, voilà. C'était, je pense, le moment de suspense le moins palpitant de l'histoire des moments de suspense, mais bon, poursuivons. Donc, évidemment, une tournée interrompue par la pandémie et aussi par une blessure, je crois, à la hanche, je sais pas quoi.
Oui, il faut dire que c'est une vieille dame, hein, les blessures à la hanche, c'est...
Elle est raccord avec son âge, effectivement. Globalement, c'est un peu nul.
Je sais pas trop quelque chose.
Je vais pas dire le contraire. Ça commence par, tu vois, des grandes phrases très mélodramatiques sur le fait que les artistes doivent déranger la paix en place. Enfin, c'est bon, quoi, je veux dire, voilà. Mais il y a beaucoup de militantisme qui est un peu naze. Après, c'est quand même Madonna, donc on peut pas nier qu'il y a une... Malgré toute la posture, qui est quand même très importante, qui représente 70%, je pense, du show, il y a un peu de vérité dedans, dans le sens où certaines choses ont bougé avec elle. Je pense qu'en tout cas, elle a rythmé certains moments sociétaux. rythmé dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Et il y a quand même un ou deux moments vraiment bien du spectacle. Beaucoup de moments très gênants, où elle fait un peu genre, c'est du stand-up, tu sais, je sais pas quoi, elle parle avec la foule, parce que c'est dans des cinémas, des endroits comme ça, où elle peut vraiment dialoguer avec les gens, et bon, elle est pas très douée en stand-up, quoi. mais elle tente des choses, écoute, elle expérimente, c'est pas plus mal. Et il y a, je pense que le point quand même culminant du spectacle, c'est quand elle interprète Frozen, où elle est toute seule sur scène avec derrière en immense sa fille Lourdes qui fait une chorégraphie. Et c'est vraiment un très beau moment. Je pense que c'est un moment artistique vraiment très fort. T'as la mère et la fille, t'as la danse qui se, les danses qui se combinent, t'as la chanson qui est super. Enfin, donc c'est, je pense que c'est le, c'est peut-être ça qui sauve le tout. C'est même carrément ça qui sauve le tout. Et pour ce moment-là, je recommanderais juste, voilà, exclusivement ce moment-là du spectacle, la chanson Frozen dans Madame X. Tout le reste est largement dispensable, mais un peu rigolo si vous voulez perdre un peu de temps.
Voilà. Je suis désolé, je suis Team Kylie Minogue, donc Madonna, je peux pas.
J'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Kylie Minogue pendant le confinement, son concert en ligne, notamment le Say Something qui était parfait, des frissons, oui. Des frissons.
Mais oui, monsieur. La vraie pop. Écoute, je t'ai fait Apple TV+, je t'ai fait OCS et Canal, je vais te faire Amazon maintenant.
Allez.
Soyons œcuméniques. Star Trek Lower Decks, qui est une série d'animation, c'est CBS aussi, figure-toi, au départ, et donc qui est chez nous et sur Amazon. Star Trek Discovery, c'est Star Trek qui se prend super au sérieux. Et c'est pas mal, hein, mais c'est sérieux, quoi. Lower Decks, c'est Star Trek qui sait ce que c'est Star Trek et qui se prend pas du tout au sérieux, et c'est vachement bien. Donc c'est concentré, ça se concentre sur les Lower Decks, c'est-à-dire pas du tout les gens qui dirigent les vaisseaux, mais justement les péons de base dans l'USS Cerritos, qui est le vaisseau de base le plus insignifiant de tout Starfleet, et c'est évidemment plein de références, plein de fanservice, enfin voilà, c'est Star Trek qui s'amuse avec le canon de Star Trek. Et parfois, c'est bien. Justement, enfin, on parlait tout à l'heure de cynisme. Bah, c'est tout sauf cynique, tu vois. Et, c'est ultra ironique, mais d'une ironie pas du tout cruelle, quoi. D'une ironie pleine de tendresse pour l'objet culturel et médiatique qu'est Star Trek. Et c'est juste cool, quoi. Et parfois, c'est bien, quoi. Parfois, t'as pas besoin de... Enfin, ouais, Discovery, oui, ça fait avancer le canon Star Trek, ça, c'est super compliqué, on voyage dans le temps, machin. Ouais, non, parfois, t'as juste besoin d'un dessin animé qui s'amuse avec Star Trek, quoi. Et ça marche.
Je pense qu'on manque un peu de ça, tu vois. Et aujourd'hui, maintenant que Star Wars est revenu dans le giron, enfin, est arrivé dans le giron Disney, et que du coup, t'as un peu le même humour Marvel, tout ça, qui est quand même un peu stéréotypé, t'as une réplique à l'emporte-pièce, voilà, et puis c'est fini, et voilà, hop. Ou alors un wiki qui fait et puis c'est un peu un humour quand même relativement restreint. C'est rafraîchissant, je pense, d'avoir un ton différent dans la SF récréative, quoi.
Ouais, et je pense que quelque part ça aide aussi à faire passer Discovery, où t'as un truc qui est c'est pas de la hard SF, mais où c'est quand même pour rentrer dedans et pour comprendre ce qui se passe, c'est quand même mieux d'avoir de savoir à peu près ce que c'est Star Trek. Et où, quelque part, ça aide à... Si t'as envie de t'intéresser à Star Trek et que tu rentres par Discovery, il y a un côté un peu... Enfin, presque oppressant, quoi. C'est super dark. Et quelque part, Lower Decks, c'est un super bon contrepoint pour te dire « Ah oui, non, en fait, ça peut être fun. On peut s'amuser de la SF elle-même et des tropes de la SF. » Et du coup, quand tu vois Discovery, tu fais « Ah oui, non, là, la ficelle est super grosse. Là, je vois ce qu'ils vont essayer de faire. » Et du coup, ça devient plaisant parce que tu rattrapes une culture Star Trek sans avoir eu besoin de te faire les 40 dernières années ou les 50 dernières années de Star Trek. Juste par un dessin animé, t'as réussi à rattraper. Et ouais, non, c'est pas mal. Vraiment.
À moi ?
Bah,
on parlait de SF un peu légère, on va aller dans la SF lourde, hein ? Avec Dune. Ouais, hein.
Dune.
J'ai à la fois beaucoup de choses à dire et très peu de choses à dire sur le film.
Oui, bah ça tombe bien, le film aussi.
Oui, voilà, je pense que c'est un très bon résumé. Épique, grandiose et un peu chiant. voilà, c'est ça. Non, c'est vrai. Je veux dire, je ne doute pas de la vision de Villeneuve. Je pense vraiment que c'est quelqu'un qui avait une vraie vision, qui l'a exécutée, c'est très bien, c'est sa vision à lui. Je ne doute pas des acteurs qui sont, très bien et tout, mais au final, c'est un film de 2h30 sur juste une partie du bouquin où il y a beaucoup de sable et puis Bah, c'est aussi désert en termes de climat, en termes de... Pas de substance, mais presque, quoi. Je veux dire, c'est tellement... En fait, je lisais, et c'est intéressant parce que j'arrivais pas à mettre trop de mots dessus sur ce que j'en sentais par rapport au film. J'ai pas passé un mauvais moment dans l'absolu, tu vois, mais bon, à part la musique que j'ai trouvée dégueulasse. Mais désolé, Hans, je suis désolé. Je t'aime beaucoup pour le reste. Et le truc, c'est que cette critique disait, ça a amputé d'une, le roman, de tout ce qui faisait sa grandeur et sa profondeur, qui étaient les dialogues. Il y a très peu de dialogue dans ce film. Et il y a beaucoup de silence, on se centre beaucoup sur la figure de Paul et sa mère. Et en fait, autant je pense que sur le papier c'est intéressant, autant dans l'exécution, je pense qu'il me manque quelque chose. C'est décidément un peu vide, quoi.
En même temps, je peux le comprendre, parce que... et je sais qu'on va forcément parler de fondation, et je crois que c'est le même problème, mais si t'essaies de transcrire la richesse de Dune mot pour mot... C'est pas deux films de 2h30 qu'il te faut.
Non, c'est sûr.
Et peut-être que te concentrer sur l'ambiance ou sur un reflet de Dune quelque part, c'est pas un mauvais pari. Du peu que j'en ai vu, je suis pas certain. J'attends que le deuxième volet sorte pour voir, pour me faire 5 heures de film.
Oui, parce que ça aussi, on va attendre 5 ans avant le prochain, franchement.
Mais je sais pas. Je suis ouvert d'esprit. Je sais enfin qui est Timothée Chalamet.
C'est pas Night Shyamalan, ça va. Ah, hein, c'est oui, pas c'est... le plus dur à dire.
Que j'étais très déçu d'apprendre qu'en fait, il n'était pas français. Donc, je sais pas pourquoi il s'appelle Timothée avec un accent.
C'est extrêmement décevant. Mais il parle à peu près français, si ça peut te consoler.
Bon, ça le rattrape alors. Mais oui, je sais pas. Je réserve mon avis, mais connaissant les bouquins intimement et m'étant fort ennuyé devant les bouquins, je me dis que c'est peut-être pas le pire pari que d'être volontairement elliptique et de se concentrer sur l'ambiance plutôt que sur le détail. Parce que là, on parlait de hard SF tout à l'heure, là, c'est de la vraie grosse hard SF, super hard.
C'est hyper hard, enfin, c'est extrême, là.
c'est peut-être pas plus mal, quelque part.
Oui, je pense vraiment que c'est... Villeneuve est vraiment, enfin, je pense, quelqu'un de très, très sincère et authentique avec la manière dont il a traité le film. Et il l'a vraiment traité de la manière dont il l'imaginait, et ça se voit qu'il est passionné par le sujet et tout. Et on peut pas dire que ce soit biaisé ou artificiel, vraiment. Je pense que c'est très, très fidèle à ce qu'il avait en tête. Après, on adhère ou on n'adhère pas, évidemment, ça c'est autre chose.
Mais si les gens qui nous écoutent ne l'ont pas vu, allez voir le premier Dune. Regardez cette scène fantastique dans laquelle Sting est en slip. C'est quand même un grand moment de cinéma, et je pense que tout le monde devrait voir au moins une fois dans sa vie la réinterprétation originale, parce que là on est vraiment dans la réinterprétation de Dune.
Ils ont quand même raté un jeu de mots fantastique, parce que Sting and Strings aurait été mieux. Enfin bon, c'est à toi.
Sur ce bon mot, écoute, quittons la SF, quoique Mythic Quest. On va revenir chez Apple.
Allez.
Elle est intéressante, cette deuxième saison. Je me demande si c'est une bonne idée que ça a été renouvelé pour une troisième et une quatrième saison.
Ça a été renouvelé, je savais pas.
Le mois dernier.
Ah oui, là c'est risqué par contre.
Je crois que c'était très bien d'arrêter ça à la deuxième saison, parce qu'il y a une fin quelque part. Et j'ai trouvé la première saison très ambitieuse pour ce qu'elle voulait dire. Notamment, je trouve très intéressant qu'Apple se permette d'avoir une série qui est extraordinairement corrosif dans le contexte du procès qui l'oppose à Epic et aux jeux vidéo de manière générale.
Exact.
Et où c'est pas de la comédie qui est drôle pour être drôle, quoi. C'est de la comédie comme du sirop pour faire passer la pilule amère du commentaire social bien acerbe.
Oui, et pour le coup, acerbe mais subtil. C'est un équilibre difficile à... Enfin, et subtil, on s'entend, je veux dire, mais ça passe, quoi.
Ouais, ouais, et puis que ce soit Charlie Day, Megan Gantz ou McElhenney, enfin, ils savent écrire, donc ça passe bien, quoi. Mais je sais pas, ça a été très très compliqué, évidemment, par la pandémie, et où je suis pas certain que c'est là où ils voulaient aller au départ, et enfin, tu sens que la production a été compliquée et qu'il a fallu qu'ils fassent avec, et parfois, il y a des longueurs qui sont très clairement dues au fait qu'il faille justifier des choses de la production. Et c'est pour ça que je me dis que quelque part, ce serait pas mal que ça s'arrête. Et ou peut-être que troisième et quatrième saison, oui, d'accord, mais sur autre chose. Tu vois, sur presque un Mythic Quest, de la même manière qu'ils avaient appelé la première saison Raven's Banquet, qui est quelque part... voilà, on dit c'est Mythic Quest, deux points, c'est le pack d'extension, quoi, le DLC.
C'est ça.
Ouais. Mais j'ai vraiment passé un bon moment devant cette série, et surtout ce que j'aime beaucoup, c'est que tu peux la regarder soit comme une série hommage aux jeux vidéo. Je pense que c'est super important d'avoir des séries télé sur les devs, d'avoir des séries télé sur les jeux vidéo. Un truc dont on n'a pas parlé dans le podcast, mais dont on a parlé toi et moi ces dernières années, le développeur comme Rockstar, quoi, comme Rockstar des temps modernes, et l'impact, pour utiliser ce mot affreux, culturel des développeurs, quoi, ou celle et Rockstar de notre temps, quoi. Mm-hmm. Et je pense que c'est important d'avoir des séries sur ce sujet, et tu peux la regarder de manière très plate, comme ça, ou tu peux la regarder comme un objet produit par Apple, qui parle aussi quelque part d'Apple, quoi, qui parle de l'addiction aux jeux vidéo sur smartphone, qui parle du problème de la commission de 30%, qui parle du problème des achats in-app et des achats in-app qu'on vend aux gamins, hein, qui parle des problèmes de Twitch, enfin, qui a des trucs à dire sur tout ce bordel, quoi. Et j'aime bien les séries qui fonctionnent comme ça à deux niveaux et qui, enfin, en plus c'est drôle, donc c'est jackpot, quoi.
Oui, j'ai trouvé la saison 2 plus intéressante que la saison 1, plus inégale aussi.
Oui, ouais, clairement.
Je pense à cause de la pandémie, très clairement, on sent qu'il y a du remplissage à certains moments, notamment les épisodes sur le Longbottom, c'est ça ?
Oui.
Non, ouais, c'est ça.
Et qui en même temps était tellement.
Mais en même temps, ça... ouais. Oui, c'est vachement chouette, c'est ça le truc, c'est que malgré tout, ils ont quand même réussi, je pense, à transformer le.
Quel magnifique acteur.
Ouais, il est fort. C'était bien. Même le personnage principal qui montre une vulnérabilité et tout ça. Enfin, c'était vraiment attachant. Assez riche, ouais, je pense, en termes de diversité aussi, on peut le dire. Et puis, bah, on verra ce que ça donne sur la saison 3 et 4. J'ai un peu peur. Je pense que c'était parti dans leur idée pour se terminer là. Et bon, on verra comment ils rebondissent. C'est pas de mauvais écrivains après, donc il y a une chance que ce soit bien, quoi.
J'ai envie de voir.
Ouais, on verra bien.
À toi.
Bon, bah écoute, je vais rester sur Apple et parler de fondation tant qu'à faire parce que comme ça on clôt vraiment le truc de SF pour de bon.
Qui est une excellente adaptation de la trilogie martienne de Kim Sandy Robinson.
Ouh!
À toi!
vas-y, va rebondir après ça, toi. Ok. Oui, c'est notre fondation que le nom, très clairement, c'est quand même très. Très loosely inspired par l'œuvre d'Asimov. Est-ce que c'est plus mal ? Je ne sais pas.
Ah, je crois pas.
Je crois pas non plus, parce que je pense que c'est quand même assez indigeste comme bouquin et c'est un peu dur à.
Je peux pas te laisser dire ça. tu m'as laissé faire ma diatribe sur Dune et c'est très bien, mais je peux pas te laisser faire ça sur Cycle de Fondation.
Bon. En tout cas, c'est ma stock.
Mais qui est justement inadaptable parce que c'est parfait et ça n'a pas à être adapté en série télé. Donc c'est très bien qu'ils aient décidé de pas le faire.
Ok, on a un ayatollah dans le podcast.
Ça va, ça?
Du coup, oui, ça va très bien. Du coup, je suis content qu'on soit d'accord encore une fois. Alors, visuellement, c'est cool. Franchement, c'est le premier ressenti que j'ai eu en voyant le premier épisode jusqu'au dernier. Visuellement, c'est quand même cool.
C'est beau.
Il y a un épisode ou deux quand même où tu vois que c'est un peu étrange, notamment vers la fin. Certains vaisseaux de ça sont un peu chelous, mais globalement, il y a rien à dire. C'est très très beau. Les acteurs actrices sont plutôt bons aussi, j'ai envie de dire. Je crois que ça marche. Après. C'est une série vraiment bizarre. ça prend son temps pour pas grand-chose, j'ai l'impression.
Ah,
C'est-à-dire que bon, il y a beaucoup de moments vraiment intéressants, de notamment dans le palais de l'Empire, tu vois, où là effectivement il y a des choses qui se disent, qui tu vois des jeux de pouvoir, de puissance, nanana. Bon, mais j'ai l'impression que pas mal de moments sur la fin ça va mieux. À partir de la deuxième moitié ça va mieux, mais au début en tout cas il y a beaucoup de moments de plat où il se passe pas grand chose, où tu regardes juste. Et il y a même pas de quelque chose de magnifique à voir à l'écran, c'est juste ça avance tranquillement, tu vois, comme ça, et puis ça rend les personnages presque désagréables. Parce que ils sont coincés dans leur espèce de truc, un peu comme des mouches contre du carreau, et c'est...
Ouais, mais quelque part, j'aime bien, parce que si tu pars du principe qu'il y a une espèce de fatalité du modèle mathématique qui prévoit la fin de l'Empire, ce côté, parfois, les acteurs qui sont spectateurs, ils sont spectateurs d'un truc qui va se dérouler, qu'ils soient là ou pas, quoi.
C'est vrai, c'est vrai.
Et où il y a des scènes qui sont très très lentes, qui passent beaucoup par l'image, par la physicalité... Je crois que c'est vraiment quelque chose qui a besoin de se regarder sur une vraiment grande télé, là, pour le coup, et je trouve la mienne un peu petite, soudainement. Alors que, pourtant, j'aime pas cet objet, mais là j'aimerais avoir une télé encore plus grande. Mais quelque part, oui, il y a cette espèce d'inévitabilité de ce truc qui tourne aussi lentement qu'une grosse locomotive à charbon, tu sais. Et que tu peux pas la freiner, quoi. Et que ça va arriver. Que tu le veuilles ou non, ça, il y a une espèce de... Oui, c'est fait.
Alors, je serais d'accord avec toi, je pense que c'est un peu la vision du réalisateur, mais il y a beaucoup de bonds temporels au début.
Oui,
qui
sont
justement
un peu gratuits,
cassent ce rythme-là. Ouais. Ça perturbe pas mal, je trouve, la lecture, et je sais même pas si c'est vraiment si utile que ça.
Ouais.
Parce que quitte à avoir écrit l'intrigue, autant, tu vois, faire quelque chose de peut-être plus... Justement, qui s'imbrique un peu comme ça. Là, en fait, on a l'impression... Alors après, peut-être que, pour filer la métaphore stellaire et tout... Peut-être que justement c'est voulu parce que on a cette espèce d'amalgame d'astéroïdes qui ensuite se rassemble pour faire une planète qui ensuite rentre en rotation avec quelque chose d'autre. Bon, peut-être que c'est cette image un peu cosmique qui est en tête. Mais voilà, j'ai trouvé que le rythme était vraiment étrange.
La complexité aussi pour la compréhension. Je pense que s'il y avait que les bons temporels, ça irait. Mais le souci, c'est que t'as la personnalité de l'Empire, enfin des empereurs, quoi,
qui sont
des clones. Et où du coup, c'est parfois difficile de comprendre les bons dans le temps parce que t'as les mêmes acteurs.
Exact. Et du coup, tu te retrouves un peu perdu, mais
ouais.
Bon, c'est un peu déstabilisant parfois. Ouais.
Mais c'est beau.
Mais bon, écoute, c'est très beau. Je verrai la saison 2 avec plaisir quand même, parce que de toute façon, j'ai envie de voir où ça va. Et
eh ben écoute, du coup, je vais finir avec Luca.
Ah.
Qui ben, rien à voir avec Fondation. Donc le Pixar de l'année 2021. J'avais écrit cette phrase sur Metro Zenodo. J'ai toujours apprécié la manière dont Pixar montre le talent de ses animateurs et la puissance de ses logiciels sans avoir l'air d'y toucher. Bref, Luca est un dessin animé de Disney. Voilà. Et où Raya, qui était le dessin animé de Disney de l'année, m'a fait l'impression d'un Pixar.
Oui.
C'est assez marrant. Après, c'était très très plaisant, c'est très joli, et l'histoire est marrante et c'est agréable d'avoir quelque chose qui était ancré, après tout un tas de Pixar qui était très ancré dans des mondes imaginaires, avoir quelque chose qui est au contraire très ancré dans le monde réel avec cette espèce de réalisme magique des personnages amphibies, c'était un changement assez intéressant, mais c'est pas un Pixar quoi, c'est un Disney. Ça marche justement pas sur les deux niveaux habituels. Là, c'est vraiment
ça.
Très on the nose, comme ils disent.
Ouais. Franchement, je crois qu'il n'y a plus de Pixar, vraiment. je suis désolé d'être viriac comme ça, mais même les plus touchants récents, genre Coco, par exemple.
Soul, c'était bien.
Ah, ouais.
Ou est-ce que c'est juste parce que j'aime la musique?
Je pense qu'il y a plus de ça. Je suis désolé de te le dire comme ça, mais même là, tu vois, enfin, j'ai l'impression que dans Soul, et pourtant il y avait d'excellentes idées, et je pense qu'il y en a aussi dans Luca, il y en avait dans Coco, tout ça. Bon. Mais pour un des derniers Pixar, à mon avis, et vice versa.
Oui.
Je pense, quelque chose a vraiment changé. Je suis désolé, je fais vraiment vieux con en disant ça. C'est terrible. On avait dit que ce serait plus léger et tout ça, mais voilà, ça c'est naturel.
Non mais il y a aussi un changement de personne. Enfin le départ de la 7 heures qui est pas un départ. Hein, il s'est fait saquer pour de très bonnes raisons. Mais
oui non bien sûr. Enfin c'est pas là du tout la question. Mais de fait du coup ça change la manière.
Ça change complètement la dynamique du studio.
Exact. Et on sent du coup effectivement beaucoup plus la patte Disney, et on sait que Disney est plutôt du genre à faire assez lourd avec beaucoup de crème plutôt que plutôt qu'aérien et raffiné, quoi.
Ouais, peut-être, c'est vrai.
C'est comme ça. Hein.
Après, franchement, s'il y a encore des gens sur cette planète qui n'ont pas vu Luca, notamment des parents, et franchement, si vous êtes, vous nous écoutez, vous êtes parents, vous n'avez pas vu Luca, putain, vous êtes des mauvais parents.
c'est vrai, on vous juge un petit peu, là, je suis désolé. Hein.
franchement, bah, surtout juste avant Noël, c'est parfait, quoi. Un samedi après-midi où il fait froid dehors,
oui.
c'est impeccable, quoi.
Oui, oui, c'est très bien. On parlait de Disney.
Ah ah.
Je vais finir avec, tu vois, j'ai dit que j'ai fini la SF, j'ai menti. J'ai vu Les Éternels au cinéma. Et effectivement, le film dure une éternité. Bon, alors, en fait,
il est
bon, il y a très très. Mais alors, j'ai une théorie du complot qui est un peu folle, Anthony, mais franchement, je me demande quand même. Parce que, donc, la réalisatrice des Éternels est celle qui a fait, je crois, un autre film qui était très bien, Nomadland.
Oui, c'est vrai. Oui.
Donc une grande réalisatrice, beaucoup de talent. J'ai oublié son nom, je suis désolé. Comment elle s'appelle? Tu sais, toi?
Chloé Zhao.
Merci beaucoup. Merci. Chloé Zhao, très grande réalisatrice, super. Bon, on la met aux commandes d'un Disney. Marvel, c'est la même chose. Bon, tu te rappelles quand ils ont fait un remake de Ghostbusters avec un casting exclusivement féminin? Ou Oceans, je sais plus combien, avec que des femmes aussi.
On va pas être d'accord, toi et moi. Vas-y, oui.
Ce sont des films qui sont ratés. Mais je crois que ça devrait pas être raté. Et donc, ma théorie du complot, c'est que on donne les rôles de façade. Donc, évidemment, les rôles d'acteurs, d'actrices, tout ça, bon, voilà, aux personnes qu'on veut mettre en lumière, donc minorités, femmes, tout ça, bon, voilà. Et pareil pour réalisateur de ça, donc tous les rôles un peu importants. Mais derrière, toute la production est toujours extrêmement la même. Et que du coup, on ne donne pas les moyens à ces films de devenir vraiment des choses qu'ils pourraient être. Oui. Et c'est pour ça que, par exemple, là pour moi, dans ce film-là, Les Éternels, ça me paraissait assez flagrant. Je pense qu'il y a des choses très belles, très intéressantes et très novatrices pour des Marvel. Mais je pense que derrière, c'est quand même Marvel. Donc c'est une machine avec une production huilée, mais c'est une industrie à ce niveau-là, quoi. Et tu peux pas faire ce que tu veux, réellement. Tu vois, comme dans la musique, c'est pareil. On dit que ça change, mais ça bouge un peu, mais ça change pas vraiment. Donc c'est ma théorie du complot à moi. C'est que je pense que tous ces films, tout ça où on met en avant une diversité ou quelque chose d'un peu novateur, en fait, sont derrière freinés. D'une certaine manière ou d'une autre.
Je suis pas certain d'être d'accord avec les prémices de ta réflexion, parce que j'ai pas tout à fait le même avis sur le Ghostbuster ou sur le Ocean's, le remake de Ocean's Eleven.
Ouais.
Mais je suis d'accord avec la conclusion.
Ouais.
Je crois qu'on ne donne pas les moyens à ces personnes de réaliser leur plein potentiel. Et notamment, filer à la réalisatrice de Nomadland, donc Chloé Zhao. Nomadland, qui est un film qu'il faut voir. Hein.
Mm.
C'est un des rares films qui a gagné un Lion d'Or à la Mostra, qu'il faut voir. les autres, il faut les commenter, ce qui est différent. mais celui-là, il faut le voir. Quoi. Et pas un samedi après-midi où il fait froid avec les enfants.
Oui, bah... oui, non, je pense pas que ce soit une bonne
idée. Ça, c'est un film du mardi soir où on est encore frais, pas entamé par la semaine. et plutôt l'été, parce que il faut pas être déjà dans la dépression saisonnière. Mais ou quelque part, oui, je sais pas si je pense que c'est très important d'avoir un cast asiatique.
Mm-hmm.
Parce que Marvel, c'est quand même des gens qui ont été capables de prendre des personnages asiatiques et de les faire jouer par des roues, ce qui est quand même assez problématique. Là, c'est vraiment intéressant de pas être dans la diversité de façade, quoi, d'être dans la vraie diversité.
Oui.
Ce serait mieux si on leur filait les moyens, et pas seulement financiers, mais aussi les moyens artistiques, de montrer cette diversité. Et moi, c'est pour ça que j'ai arrêté les Marvel. Je ne verrai pas les Éternels. Mais on l'a vu avec les derniers Marvel du précédent cycle. Oui, effectivement, il y a. Si tu ne peux pas jouer avec le canon, si tu ne peux pas montrer le racisme implicite, et parfois explicite d'ailleurs, qu'il y a dans les Marvel, enfin putain, les Avengers, quoi, c'est... Enfin, c'est le quatrième Reich, quoi, les Avengers. Enfin...
Mais non, les méchants, c'est l'Hydra, voyons, t'as rien compris. Hein. Sarcastique.
Ouais. Donc oui, enfin, moi, c'est fini, quoi. Et ce que tu me dis des Éternels me donne pas envie de changer d'avis.
J'en suis désolé. Pourtant, j'étais très content de revoir Angelina Jolie, notamment, que j'avais adoré dans Tomb Raider, parce que je suis un homme de goût.
Ouais,
un de ses plus grands rôles. Mais écoute, ouais, c'était une occasion ratée.
Eh bien, écoute, fin de ce top 5. On se revoit la semaine prochaine pour parler de, je sais pas, livres.
Livre ou musique, j'hésite encore un petit peu, parce que je sais pas si j'ai lu 5 livres cette année.